sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Et moi, j'aime l'entreprise.
On pourrait faire buter un patron par un professionnel.
J'aime l'entreprise.
Ça, je mettrais plus les pieds dans cette tôle, là.
Faut que tu rationalises.
Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein. C'est toutes noires, hein.
Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1.
Mais quel patron?
C'est la solution la plus rentable. Donc, la seule.
Sans publicité, il n'y aurait plus liberté d'idées.
Il y a troussage de domestiques, je vois ce qui n'est pas bien.
Mot d'ordre central brisé, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme.
Offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour la diffusion de la seconde partie d'un entretien croisé avec le sociologue Saïd Bouamama et l'anthropologue Alain Moritz. L'entretien a été enregistré le 29 janvier 2016 à la bibliothèque associative de Malakoff, la BAM. La première partie de cet entretien a été diffusée lors de l'émission d'Offensive Sonore du 5 février 2016 sur les ondes de Radio Libertaire. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien sur le site de la BAM, b-a-m.org. Il est question dans cet entretien de politique migratoire, de politique de la citoyenneté et des luttes à la croisée des deux. Avant de lancer la bobine, je voudrais remercier Simone et Clément pour avoir accepté de questionner nos deux invités et un grand merci à Saïd et Alain d'avoir joué le jeu de cet entretien croisé. Je souhaite à toutes et tous une bonne écoute.
Façon de parler, m'est venue, je me souviens, il y a à peu près au début du social, ou en 1999, je crois, ou peut-être un peu avant, quand j'avais entendu une déclaration de quelqu'un qui avait été Premier ministre, il s'agit d'Alain Juppé, qui avait été Premier ministre au moment où les occupants de l'église Saint-Bernard avaient été chassés de l'église, et certains d'entre eux avaient été expulsés vers le Mali d'ailleurs, et ils avaient été traités avec quand même énormément de brutalité. Et à cette époque-là, donc, on a piqué un peu la thèse de l'ancien ministre de l'Intérieur qui s'appelait Charles Pasqua, à savoir, non seulement un peu immigration zéro, mais en plus, on est impitoyable avec les gens qui, avec le prétexte, les gens qui ne devraient pas être là, avec le prétexte absolument incroyable que ça, c'est pour mieux intégrer ceux qui ont le droit d'être là. Bon, ça, on a entendu ça des milliards de fois. Et le même Alain Juppé, 3 ans ou 4 ans après, je crois, il y a eu un rapport de l'ONU entre-temps, je crois, le même Alain Juppé, 2 ou 3 ans après, disait que l'Europe allait quand même sacrément avoir besoin de beaucoup, beaucoup de bras pour relancer l'économie. Alors si, quand on est capable de dire le blanc et le noir à si peu d'intervalle, c'est donc qu'il y a une logique utilitariste. Et c'est là que m'est venue cette idée-là. Et en effet, bon, alors l'utilitarisme migratoire, version française, parce que ce serait pas la version, par exemple, États-Unis. Dans l'histoire des États-Unis, c'est encore autre chose. Là, c'est plutôt des fronts pionniers, colonies de peuplement, injonction à rester, au contraire. Donc, l'utilitarisme migratoire a pris plusieurs formes en France. Ça a été, en gros, traditionnellement, d'essayer d'ajuster en quantité, en qualité, la quantité de main-d'œuvre aux besoins supposés de l'économie. Bon, ça marche plus ou moins bien, parce que on sait au moins, depuis Marx, mais même avant, que le capitalisme ne se planifie pas. Et par conséquent, on ne sait pas de quoi demain ferait. Enfin, on a des trucs absolument hallucinants. Justement, des revirements. Les Espagnols ont dit à un moment donné, on n'aura plus besoin de travailleurs saisonniers. Quelques mois après, ils avaient à nouveau des travailleurs saisonniers parce qu'ils croyaient que tous les travailleurs du bâtiment indigènes, enfin espagnols, allaient basculer dans l'agriculture parce qu'on avait fermé beaucoup de boîtes. Mmh. Mais pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Enfin, ça ne se passe jamais comme on veut. Donc, l'utilitarisme migratoire, c'est le tâtonnement permanent. Ça, c'est une première chose. Mais maintenant, ça prend des formes très actuelles, qui ont tout à fait à voir avec tout ce que nous avons dit avant, notamment sur la question de la suspicion, de l'indésirabilité des étrangers, etc. C'est on fait tous les efforts possibles et imaginables maintenant, et pas seulement la France, hein, pour s'accaparer la force de travail des personnes, donc en quantité, qualité, ce que je disais, etc., sans s'embarrasser de la personne.
Sans les reconnaître.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu extrêmement important. J'avais écrit un article qui s'appelle « Travailler sans travailleur ». Et c'est vraiment ça.
C'est-à-dire que sur le site du Justi, je
crois. J'avais piqué ça comment ?
Sur le site du Justi, non ?
Travailler sans travailleur, bah, écoute, oui, c'est peut-être, c'était peut-être effectivement dans la revue Plein Droit. C'est pas impossible, je ne me souviens plus. Mais enfin, oui, enfin, en tout cas, j'avais piqué ça à un agriculteur de la Confédération Paysanne qui avait très très bien vu les choses, et quand on parlait des travailleurs saisonniers dans l'agriculture et tout, il disait oui, les patrons ils veulent le travail sans travailleur. C'est-à-dire ils veulent surtout que le travailleur foute le camp dès que le contrat est terminé. Et on en est là, maintenant on n'a plus de travailleurs, il n'y a plus de travailleurs immigrés maintenant. Par exemple, les travailleurs détachés, ceux qui sont mis à disposition à travers les accords commerciaux ce qu'on appelle la GCS, enfin bref, ou la fameuse directive Bolkestein qui avait beaucoup de bruit, on prête le travailleur. Une entreprise extérieure prête le travailleur à une entreprise à l'intérieur du pays, mais ce n'est pas un travailleur immigré. Il a un contrat, le contrat est de 3 mois, au bout de 3 mois, au revoir et merci. Ça, c'est la formule actuelle de l'utilitarisme migratoire.
Il ne dépend pas du droit du travail.
Voilà, donc, et enfin, en tout cas, on veut, puisqu'on a compris de toute façon qu'on ne savait pas gérer les enfants, et on ne savait pas gérer le regroupement familial et les descendants, etc., qu'on ne savait pas gérer l'intégration, enfin, pour reprendre le langage de ce que je ne partage pas, puisqu'on savait, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait plus de descendance. Il faut s'arranger pour que ces gens ne restent pas. Et on retombe dans un système qui n'est pas sans rappeler celui des migrations tournantes de l'apartheid. On est l'apartheid. C'est-à-dire que la réserve, là, elle est gérée à l'extérieur. La réserve, elle ne sera pas en France. Elle va être, je ne sais pas, moi, au Sri Lanka ou je ne sais pas quoi. Israël fait ça depuis très longtemps. Les pays arabes aussi, d'ailleurs.
Hein. Migrations tournantes.
C'est Claude Meyessou qui avait beaucoup développé ce truc-là, si tu veux. L'association entre un mode de production domestique et les gens qui se reproduisent ailleurs, et puis l'utilisation de cette main-d'œuvre, de cette force de travail par l'économie capitaliste. Mais c'est la logique de l'apartheid. Je dis pas que c'est exactement ça, mais c'est vraiment la logique de l'apartheid. Les gens se reproduisent ailleurs, les gens vont mourir ailleurs, les gens s'éduquent ailleurs, et on les prend dans la mesure de nos moyens. Et donc, avec l'accélération des moyens de communication et tout, c'est quelque chose qui marche peut-être effectivement mieux, parce que ça résout un peu le problème de la planification. Et on retrouve un peu les vieux marchés aux esclaves, dans le genre, aujourd'hui, donnez-moi 3. Et tout, c'est d'ailleurs, il y a un film qui va être fait, j'ai vu ça, à partir du livre de Nicolas Jounin qui a écrit Chantier interdit public, et j'ai vu, non, c'est une bande dessinée. Une bande dessinée, j'ai vu une image qui était dans un journal, là, et on voit ça, effectivement, on voit ça, c'était les sociétés d'intérim, t'as le gars qui dit, aujourd'hui, j'ai pas besoin de manœuvre aujourd'hui, alors t'as tous les gars qui sont en train d'attendre, est-ce qu'on va m'embaucher, est-ce qu'on va pas m'embaucher, il dit non, aujourd'hui, il me faut 3 ferrailleurs, et c'est tout. Voilà. Et puis demain, ça sera, alors là, c'est ça, mais alors, au niveau des relations entre les nations.
Absolument.
C'est ce que fait la France avec le Maroc pour les travailleurs saisonniers. Enfin, maintenant, elle le fait avec la Pologne aussi.
C'est ce qui se passe aussi à la frontière entre États-Unis et Mexique, où il y a millions de travailleurs.
Oui, les États-Unis, ils ont encore un petit peu à perfectionner le truc parce qu'il y a les fameuses maquilas. En fait, il y a quand même des sociétés qui sont délocalisées.
Ça se passe maintenant avec le Salvador et le Mexique.
On tombe dans l'externalisation aussi, là. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est un bon exemple, l'agriculture californienne en particulier, n'a jamais su se passer, ça on le sait depuis les romans de Steinbeck, c'est vieux cette histoire, elle n'a jamais su se passer d'un afflux considérable de travailleurs étrangers. Le racisme d'ailleurs fait partie du dispositif, hein, c'est quelque chose de très actif. mais elle a toujours essayé effectivement de savoir s'en débarrasser. Mmh. Et là, c'est l'obsession, c'est on en veut bien à condition qu'il ne s'installe pas. Et moi, on me l'a dit dans mes enquêtes dans l'agriculture, moi, ces gens-là, je les aime bien, etc. Vous comprenez, on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes mœurs et tout. Moi, je les aime bien, mais à condition qu'ils retournent chez eux après la fin du contrat. Et ça, ils le disent sans aucune vergogne. Mmh. Mais par contre, ils sont très travailleurs, on les aime beaucoup.
Ouais. Avec toujours le stéréotype positif qui accompagne.
Et je voudrais juste souligner que on a connu dans le passé ce type de modèle sur des institutions d'État ou des institutions service public. Je veux dire, sur les mineurs marocains. C'était ça, c'est-à-dire qu'ils avaient un contrat de 2 ans.
Oui, c'est l'ONI.
Voilà, ils avaient un contrat de 2 ans avec obligation de rentrer en pays.
C'était l'ONI, oui, c'est ça. Oui.
Et donc là, on avait bien cette idée que, un, on ne prend pas en charge tous les frais de production du travailleur, puisqu'ils arrivent tout frais, ils sont prêts, et surtout, ils n'ont pas vocation à rester. C'est la célèbre phrase de Sayad, quoi. Il nous faut une force de travail brute, sans odeur, sans saveur, qui ne fait pas d'enfant. Voilà, c'est ça.
Ça reprend en plus, ça reprend à mon avis une grosse lacune de Karl Marx lui-même, qui n'avait pas compris la question de la personne était également centrale. Et que c'est effectivement, ils sont les gens qui ne s'intéressent qu'à la force de travail, de ce point de vue-là, sont très marxistes.
Mais en même temps, la précarisation au sein du marché du travail est rendue possible grâce à la précarisation statutaire.
Oui, mais ça découle de ça.
Oui, et en même temps, c'est de plus en plus difficile d'obtenir un contrat. Et moi, je vois que, même au niveau des stratégies des migrants, c'est plutôt l'asile plutôt que chercher d'obtenir les permis de séjour à travers les contrats de travail, que ça devient de plus en plus compliqué.
Parce que c'est impossible.
Ouais, c'est complètement impossible.
Et là, c'est le mariage et l'asile.
Et du coup, oui, on voit qu'il y a des stratégies concurrentes. C'est la question de détachement, de localisation, etc. Mais il y a aussi toute cette question qui est toujours en renouveau de la politique d'asile. Et ma question, c'est justement... Comment on peut appliquer, la grille de lecture de l'utilitarisme migratoire aussi aux politiques d'asile?
Je ne voudrais pas que ce soit seulement moi, mais là-dessus, j'ai un peu réfléchi parce que là, ça fait partie aussi des trucs sur lesquels j'ai un peu enseigné. L'asile a été incorporée, ce qu'on appelle l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui régissait jusqu'au code de l'entrée et du séjour des étrangers, le CESEDA actuel. Qui régissait l'entrée et le séjour des étrangers, ne traitait pas de l'asile. L'asile était quelque chose de différent, et à partir de 1951, la Convention de Genève sur les réfugiés, l'asile relève des droits fondamentaux des personnes. Et c'est seulement à partir du traité d'Amsterdam de 1997, et la France concomitamment exactement avec une loi dite loi Chevènement, a incorporé l'asile dans ce qu'on appelle le vocabulaire de Bruxelles, le pilier migration. Et l'asile est maintenant dans la migration. C'est très pervers. D'abord, d'un côté, c'est un droit, pour l'instant, je ne suis pas d'accord avec ça, mais enfin bon, pour l'instant, c'est un droit régalien des États de dire j'accepte ou j'accepte pas des gens sur mon territoire. C'est en contradiction peut-être avec les conventions internationales, mais enfin, c'est comme ça que c'est pratiqué. Il n'y a pas de liberté d'entrée. C'est admis en général par à peu près tout le monde. Et d'un autre côté, l'asile, comme le regroupement familial, ça relève des droits fondamentaux. La liberté, le droit de vivre en famille, le droit sacré, et le droit de demander protection, droit sacré. Donc c'est très pervers, parce qu'à partir du moment où effectivement on ferme les portes, on entre forcément dans une logique de suspicion. Les gens, ils utilisent les moyens qu'on leur laisse à leur disposition. Donc on tombe tout de suite dans une espèce de confirmation permanente de cette notion stupide de faux réfugiés. Comme si des gens avaient de fausses raisons de quitter leur pays. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, du coup, alors si tu veux avoir... Et en plus, chez nous, si je dis ça, on va penser que je suis pas pour. C'est bien, moi je suis ravi quand quelqu'un arrive à obtenir l'asile et à pouvoir travailler, je suis très content. Mais le fait que c'est malsain que le fait que la carte de séjour soit adossée au titre de réfugié. le passeport d'enseigne de ce point de vue-là qui avait lieu entre les deux guerres était bien supérieur. Le passeport d'enseigne, on disait, tu n'es plus apatride, tu as un passeport qui te permet de voyager librement dans le monde, à condition que ce ne soit pas le pays d'où tu viens. Bon, ça c'est une histoire, mais effectivement, un réfugié, on lui demande au moins une chose, c'est de ne pas retourner dans le pays d'où il vient, parce que dans ce cas-là, faut pas raconter des blagues, on n'est pas réfugié. Mais donc sinon, le passeport d'enseigne, ça permettait à une personne de voyager librement. Et c'était beaucoup plus simple que le truc. Moi, étranger, j'obtiens le statut de réfugié en France. À ce moment-là, j'ai un droit à travailler. Et donc, forcément, la logique des dirigeants, des autorités politiques, du public, c'est de surtout faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop. Que tout le monde ne s'engouffre pas dans cette brèche-là. Voilà ce qu'on peut dire sur l'asile. Donc, on est bien aussi dans la question de l'utilitarisme, mais dans la question qui est abordée sous l'angle de la restriction au séjour, la restriction au droit au séjour. Je crois que c'est ça qui est fondamental, donc on est toujours un petit peu dans la même chose. Maintenant, avec les Syriens, ils sont vachement embêtés, parce qu'ils disent on peut quand même pas chasser des gens vers les pays en guerre. Mais ils sont en train de commencer à le faire. La Suède n'en veut plus.
Ils sont en train de l'Allemagne, déposséder de leurs biens.
L'Allemagne, pareil. Ils sont en train de le faire. Alors, c'est des gens, on va se retrouver dans la... On va avoir une espèce de renouveau de la mythologie du Mitterrand, du juif errant, je veux dire. Où veux-tu qu'ils aillent? C'est ça, donc on multipliera les nini, c'est-à-dire ni expulsables, ni éligibles au titre de l'asile. C'est absurde. Alors, et puis il y en a qui font les frais, il a été décrété donc, que le Maroc est un pays sûr, c'est à discuter, que l'Algérie est un pays sûr, c'est à discuter. Et donc par conséquent, on renvoie systématiquement tout Algérien ou tout Marocain qui demande l'asile, comme faux réfugié. Bah, tout ce que je pouvais ajouter sur cette question-là, mais là, en effet...
Les gens parlent d'amour, ça pour dire qu'il n'en a pas. J'espère goûter un jour avant de boire la coupe du trépas. Trompé par la poisse, le bonheur dans ma vie en a peu. Mon humeur, une tumeur, la mort, pas de place pour l'humour. J'ai un média essoufflé, c'est le prix du sang. J'vais acclamer le sang de ceux qui nous gouvernent, le sang de ceux que t'as acclamé. Assassin présumé, naisse, puis les reins personnels. Torturé par le regret, des fois j'flippe qu'ils soient éternels.
T'as vu leur monde, ils tournent carré, donc pas rond, tournent pas haut.
T'as vu leur maison d'arrêt,
trop de mecs derrière leurs barreaux. Faut mettre un terme à leur haine qu'ils apprennent. Quand 2001, c'est plus de haine qu'ils nous apprennent, mon. Rap une thérapie par mon existence. Fais de la résistance comme papy, mais pas pour la France. Garde mes distances avec PS qui le concerne. Et t'en changes, mec, mais c'est toujours les mêmes qu'on sert. Et c'est toujours les mêmes qui prospèrent. Alors on ose le pire, alors on perd nos repères. Alors où trop désespère, alors qui reste le pire. Quoi d'autre à dire, à part que ça pue jusqu'à l'air qu'on respire de l'armée de sang.
Moi j'ai vu trop de vis cassées, froissées par le passé. Trop de personnes effacées, ou impossible à classer. Ça devient classique, on dit m'en sortir, ce serait fantastique. Pourtant top de mon éthique, et rapé chaotique. La rue te blesse ici, y'a pas d'issue possible. Moi je joue avec la rime comme la bac avec sa cible. Tout me semble inaccessible, de sens tout se ressemble. À la recherche d'un bonheur illusoire, putain tremble. Je vois trouble, mais qu'à mon goût trop de gens j'dédouble. Un jour on serre les coudes et le lendemain proche de tout.
Dans l'armée de sang, tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident, et c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent. On apprend en se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang. Tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident, c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent. On apprend en se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang.
Je voulais pas si j'ai vomi cracher sur le bise, moi. Je dois faire du genre en tant que crise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. J'ai trimé pour être large, riche avant l'âge. Et si je suis pas numéro 1, c'est qu'il y a le king avant l'âge. C'est retiens la leçon. Je l'ai fait mouiller sans le doigt, 100% hardcore. Écrit des lyrics gore en traversant le bois. Ton inspiration, tu l'as mise où? Arrête le rap ou bien ta respiration. Je suis Chaka Zulu contre les colons trop. Ton contre l'école, l'atterrissage forcé nous prolonger. Tu baiser ta tasse car elle est bonne et j'ai dû prolonger. Faire couler des larmes de sang au mic lunatique. Dissident, c'est toujours danger.
Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait rester là, se laisser noyer, telle est ma vie. Qu'elle soit ici à Soweto ou Tel Aviv, destinée à lutter, à IB, lunatique, mon unité active. Paris, ma naissance, mon crime, mes premiers pas, ma jeunesse, mon adolescence, les souvenirs se bousculent. L'insouciance, le peu de maturité, la délinquance, le temps d'un tir, une détonation et tout bascule. Revois les potes de la première heure porter secours. Ceux qui veulent nous détruire, les meilleurs concours. Mais sèche tes larmes, vois comment ton fils est devenu un homme, un fruit de l'amour. Mûrir trop jeune, Ça s'agit quand il s'agit de mourir, ça frappe à n'importe quel moment, dans n'importe quel parcours. Préserve mes gènes, mon sang, ce qui en moi est abrité, ma part de négritude et d'arabité. Islam pour l'éternité.
Ce que nos pensées ne sont pas les leurs, l'État nous marginalise, évangélise leurs bavures, nos gravures les diabolisent, paralysent. Un dissident par les assises, vos peines pulvérisent. Trop peine loin de nos familles, avec leurs murs, tu te familiarises, paie pas les impôts. Avec notre jaille, s'achète des armes, quand ça se retourne contre les miens, crois-moi, plus de temps de retenir ses larmes. Ramallah là pas les gosses, les fils d'une patte dans le front, c'est pas dans le cœur, l'heure de pierre, une doigt pour laver la front. De larmes et de sang, tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident, et c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent, on apprend se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang. Tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident, c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent, on apprend se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang. Tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident, c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent, on apprend se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang. Tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident, c'est depuis que je suis adolescent. Elle donne au son que ça se ressent. On apprend en se blessant. Personne n'est innocent, 100%.
De l'arme de sang. Dissident, il y en a deux. C'est ainsi.
Pour revenir sur bon, on a déjà, évoqué pas mal de points sur cette question-là, mais comment expliquer que la, pour reprendre les troisième et deuxième génération, que comme vous, enfin que vous présentez comme comme Alain Maurice les présente comme les conséquences non prévues hein, de l'utilitarisme migratoire. Comment vous expliquer qu'elle soit aujourd'hui sommée de faire allégeance et de montrer patte blanche à l'État français donc on l'a vu notamment avec la question de la déchéance de nationalité, de je suis Charlie, je ne suis pas, enfin voilà, toutes ces questions-là, les enfants qui à la en maternelle qui se sont retrouvés, enfin en garde à vue, je sais pas, au collège, ou je ne sais plus quelle section, mais il y a eu des absurdités de ce genre. Voilà, comment vous analysez cette situation?
Oui, l'actualité aussi, ouais. Vraiment, c'est l'état d'urgence.
Oui, avec l'état d'urgence.
Il y a des chances de nationalité, c'est un manif demain.
Non, mais d'abord, sur la déchéance de nationalité, on est sur une dimension extrêmement grave. Puisque là, c'est un État qui assume ouvertement des choses qui existaient déjà, mais en implicite, qui dit ouvertement, non pas pour la citoyenneté, mais pour la nationalité même, je vais créer une nationalité à étage. Là aussi, c'est pas nouveau, on a eu ça, les Algériens étaient français, mais ils étaient indigènes français. Les autres étaient, étaient citoyens...
Français musulmans aussi, je vois. Oui.
Et dans les textes de loi, c'était indigène français, donc la francité, on leur donnait ce titre-là, quoi. Et donc, ça, c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Non, ce que je pense vraiment, c'est que une des raisons du contexte actuel, c'est il y a deux raisons qui se cumulent et dont l'importance est variable selon les moments. Une première raison, c'est les conditions d'existence de cette partie de notre société sont extrêmement graves. C'est-à-dire que si on, ce que je disais tout à l'heure sur l'ampleur des discriminations, sur leur aspect massif, structurel, etc., sur le fait que pour des jeunes issus de l'immigration, ça fait partie d'une carrière de discriminant, c'est-à-dire qu'ils le rencontrent dans le devenir adulte, entre leur âge de 15-16 ans et leur âge, ils le rencontrent une série de fois, plus le rapport de surveillance des quartiers populaires par la police, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est une situation qui est perçue comme humiliante. Ça, c'est des facteurs d'explosion possibles. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va exploser, mais on a vu, ça peut donner dès 2005. En tout cas, depuis 2005, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas pris cette ampleur-là, mais il n'y a pas... Il n'y a pas un trimestre sans qu'il y ait une explosion dans un quartier. Et donc, on a bien cette idée-là. Donc, c'est aussi l'état d'urgence, comme le reste, c'est aussi une mise en surveillance qui avait déjà commencé avec la BAC, etc. Il faut vraiment regarder ce qui se passe dans les quartiers populaires aujourd'hui. Et là, avec l'état d'urgence, c'est la fête. Je reviens de Montpellier, mais c'est la fête. Là, ils s'autorisent des choses. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, Il est plus d'un niveau idéologique, qui est ce que Pierre Thévenin appelle la lupinisation des esprits. On a vraiment, depuis trois décennies, une imbibation idéologique de thématiques qui étaient auparavant de mots, de concepts, de thèmes qui auparavant étaient cantonnés à l'extrême droite et qui se sont diffusés de manière beaucoup plus large. C'est Jean-Marie Le Pen qui disait, je crois, au deuxième congrès du Front National, si on impose nos mots, on a gagné. Et il prend un exemple, quand je suis replongé dans la lecture de son discours à ce congrès-là, j'ai une base dans la figure, parce qu'il dit, prenons un exemple, si nous arrivons à ce qu'on ne parle plus de classe sociale, mais d'identité nationale, nous aurons gagné. Et tu te dis, mais voilà, il y a une stratégie discursive, une stratégie... Et là, il faut vraiment interroger la porosité qu'il y a eu sur cette dimension-là. Parce que la dérive sécuritaire, ou le tournant sécuritaire, d'abord, il y avait déjà plein de sécurité avant, mais c'est l'accélération actuelle, elle est une conséquence logique d'une manière de penser la société particulière, voilà, qui est une manière de penser la société en termes de contrôle, en termes de surveillance, etc. Et on a les conséquences logiques, valses et sincères. C'est pas un démagogue. Il est sincère. Il pense vraiment que c'est ça qu'il faut apporter. Parce qu'il est complètement imbibé de toutes ces thématiques qui auparavant étaient contenues à l'extrême droite et qui se sont diffusées de manière beaucoup plus large aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment les deux, la crainte d'explosion sociale et en même temps une imbibation idéologique de thématiques de l'extrême droite.
Et moi je enfin, vraiment, je d'accord. Je crois qu'on peut ajouter que ça s'auto-entretient, c'est-à-dire que en fait la guerre aux pauvres, la guerre aux gens dans les quartiers pauvres, etc. C'est un truc qui est producteur de ce qu'on prétend combattre. Ça me paraît bien évident. Je crois que je crois qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup le mot émeute, tu dois en faire partie, mais moi ça m'est égal, parce que les événements de 2005, une des genèses de ça, c'est certainement le face-à-face avec la police. Quotidien, permanent, comme tu l'as dit. Et si on résout ça avec un face-à-face accru avec la police, ça veut dire qu'on est dans une logique de surenchère. Et la police. Qui va très bien aussi avec la multiplication des emprisonnements. Une logique à l'américaine. Plus ça va mal et plus on frappe, et donc plus on éloigne encore la solution des causes qui sont à l'origine du. Enfin, il y a quelque chose là-dedans de qui fait douter de l'intellect, ou alors ils poursuivent d'autres
buts. C'est ça.
Ouais. Ils vivent de ça.
Ou alors c'est une stratégie. Voilà,
ils vivent de ça, mais c'est. Ça ne peut être qu'une hypothèse subjective. Je ne suis pas à leur place pour savoir exactement.
Parce qu'on peut aussi voir ça comme une stratégie purement politique que de créer une nébuleuse républicaine irréprochable en quelque sorte, avec une reprise cynique en fait du combat contre le Front National.
Moi je pense simplement qu'à un moment donné, j'ai l'impression, décidément je vais vraiment être pessimiste aujourd'hui, mais à un moment donné ils n'ont plus le choix. Moi je pense le ver il est rentré dans le fruit quand l'immigration par exemple est rentrée dans des thèmes de l'électoraux. Ça se date très précisément, c'est juste après 1980.
Les questions se sont posées.
C'est très précis.
Ouais. C'est le début de la lupinisation.
Parce qu'avant, peu de gens le savent, mais la question de l'immigration n'était pas dans le programme du Front National. C'est devenu présent d'un coup d'un seul. Et il y a la fameuse élection de Dreux, c'est 83, non 82.
83.
Et là, on a dit, le Front National posait votre question.
Voilà. Et alors, un peu progressivement, à un moment donné, ils n'ont plus le choix. Je vois très bien qu'ils n'ont plus le choix, parce que s'ils commencent à dire, nous, on va avoir une politique qui est ouvertement anti-xénophobe, ça veut dire, nous perdons nos députés, nous perdons nos mairies, nous perdons nos conseils régionaux, et de toute façon, ils les perdent aussi. Mais ils les perdent aussi, mais parce qu'il y a une surenchère. Donc forcément, il y a des perdants, quoi. Et ça, c'est donc, il y a un côté un peu suicidaire sur lequel je m'interroge, parce que je me demande, je me pose des questions sur l'équilibre mental des...
Ça, je pense que c'est une bonne conclusion, je pense qu'on peut s'arrêter là. Non, mais bon, c'est vrai que
et pour le coup, on a un aspect systémique de ça. Parce que cet enfermement-là de la classe politique en ayant accepté l'introduction de l'immigration comme enjeu central des campagnes électorales, voilà, d'abord c'est suicidaire, la gauche est en train de se tuer là. Un, c'est suicidaire, mais deux, les points de réaction à ça n'existent pas, puisque une partie de la société qui est les réseaux étrangers ont pas le droit de vote, donc ne pourront pas intervenir dans ce débat-là. Les enfants issus de l'immigration exclusive, ils ne veulent plus voter, parce qu'ils disent ce débat-là, on peut pas voter pour qui. Genre dans les quartiers, le truc, c'est Hollande ou ou Marine, pour nous, on ne voit pas la différence. Donc, enfin, Valls ou Marine, on ne voit pas la différence. Donc, on ne va pas voter. Donc, le système s'auto-entretient. Alors,
c'est bien ça.
Et du coup, ils sont sûrs de se maintenir au pouvoir, au final. Mais est-ce que, pour le coup, j'ai une question là-dessus, est-ce que pour pour le militantisme, pour les mouvements qui existent, est-ce que c'est pas justement une cible du coup qui s'unifie en quelque sorte, tu vois où est-ce que je veux en venir, dans le sens où est-ce que ce serait pas, je l'ai écrit tout à l'heure, je vais retrouver mes notes, alors, mais est-ce que ce serait pas en quelque sorte, alors qu'est-ce que j'avais écrit, oui j'avais dit est-ce que ce serait pas du coup est-ce que cette stratégie-là ou ne serait pas propice à l'identification d'une adversité en bloc en quelque sorte, qui nous permettrait justement de développer une perspective alternative qui serait pas dans les sillons de l'ultralibéralisme.
Oui, sauf que les entraves sont énormes. Ouais. Et les entraves, c'est quand même tout ce qui a été construit depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est-à-dire des pôles d'unité nationale qui sont complètement irrationnels. C'est-à-dire, sur l'islamophobie, on a quelque chose qui est transversal, etc. Ouais. Et même des gens avec qui tu peux te retrouver sur un certain nombre de combats, tu te dis, mais c'est pas possible. Et sur la question de la négation de discrimination, il y a un certain nombre de thématiques. Ouais, ouais. Qui ont été produits par en haut et qui ont imbibé. C'est pour ça que je pense pas que c'est simplement une stratégie complose. C'est aussi des rapports sociaux racistes qui sont enracinés. Il y a 30 ans de ça, ça produit des rapports sociaux qui s'enracinent. C'est-à-dire que le vote Front National, c'est aussi le résultat de 30 ans. De 30 ans d'acceptation de cette thématique.
Des questions, ouais.
C'est pas que par en haut, c'est aussi par en bas maintenant. Moi, je sais pas si on va pouvoir éviter la séquence Front National au pouvoir. J'espère que oui, mais je ne suis pas du tout certain.
Parce que la brèche a été très longtemps ouverte et ouverte à des idées conservatrices, réactionnaires, dans lesquelles se sont engouffrées des personnalités comme Alain Soral, notamment, on peut le dire. On le retrouve dans les quartiers populaires.
Soral, c'est très intéressant. Ouais, hein, quand on regarde les raisons de son succès, ça nous montre les carences du mouvement militant. Soral parle de système, bien sûr. Voilà. Lui, ce qu'il appelle système, c'est le conflit juif. Donc voilà.
C'est bouclé.
Sauf que ça correspond à un état de conscience dans les quartiers qui est de dire, c'est pas que des attaques séparées, il y a un vrai système derrière. Et il n'y a aucune autre offre d'analyse systémique qui l'aurait fait. Il n'y a que lui qui leur offre une analyse systémique débile, mais en tout cas, qui
vient parler sur YouTube.
Deuxièmement, il dit, c'est radical. Voilà, il faut tout foutre en l'air parce que ça va pas, quoi. Ce qui correspond à l'expérience des jeunes des quartiers populaires qui disent, mais quand même, ce qu'on vit, c'est pas qu'un petit détail, etc. Et donc ces questions de discrimination, comme ils ne font pas partie comme dans les axes centraux des organisations, ils peuvent pas s'y reconnaître. Et puis, troisièmement, Soral vient dire, l'ennemi, je le connais. C'est le juif.
Il est défini.
Voilà. Alors qu'en face, on a l'ennemi, c'est l'islam, c'est. Il y a un flou dans ce qu'est l'ennemi.
Mais il donne une certaine assurance, une certaine réassurance pour ces jeunes qui sont.
Il donne effectivement de fausses réponses qui ont toutes les formes d'une réponse au besoin de radicalité, au besoin de systémie. Alors on aura beau critiquer Alain Soral comme on voudra, si on ne redéveloppe pas du discours systémique, de la radicalité et de la non-islamophobie, parce que la force de Soral, c'est aussi ça, c'est qu'il va leur dire « oui, l'islamophobie, ça existe, c'est scandaleux
». C'est ça.
Qu'en face, des gens qui voudraient désigner, leur disent « ça n'existe pas, tu exagères ».
Mais alors qu'en réalité, il parle de vrais musulmans, enfin il est complètement... Le gars brouille les cartes d'une manière assez incroyable. À ce niveau-là, il est assez...
Que la vidéo que j'ai faite pour prendre ses armes, pour le déconstruire en disant ces trois choses-là, il a pris la peine d'y répondre, alors qu'auparavant, d'habitude, il a pris la peine d'y répondre en m'insultant, etc. Ce qui veut dire que, moi je l'ai analysé comme... ça t'a fait mal quelque part. Parce que les insultes, ils s'en foutent. Les insultes, ça le renforce.
C'est ça. On l'a vu avec Julien Salingue aussi.
question, enfin je sais pas, c'est une des pistes, je sais plus trop où on en est, mais une des pistes, c'est aussi d'être capable de répondre sur des formes médiatiques assez similaires. Mm-hmm. Enfin, je sais que nous, à cette émission-là, on avait reçu les auteurs de La Galaxie Dieudonné, qui revenaient sur la question de voir en quoi c'était un business et qu'il fallait pas y voir forcément autre chose. Et c'est là, il y a quelqu'un qu'on a pris une version audio, qui l'a mis sur YouTube avec une image fixe pourtant, donc ce qui est quelque chose d'assez rebutant par rapport aux vidéos d'Alain Soral. Et c'est la seule réponse qui apparaît sur YouTube quand on traîne sur les chaînes. Mmh. Et surtout, on n'a jamais eu autant de vues. Enfin, je veux dire, nous, on est sur Radio Liberté, on a très peu de personnes qui les écoutent en moyenne. Et là, on a eu, je ne me souviens plus exactement, mais c'était énormément, énormément de vues. Et donc, en effet, ça, c'est une des manières de lutter aussi contre, ou alors de construire un mouvement fondamentalement, sur des réaffirmer des choses de manière un peu positive, et autre que dire juste Alain Soral, il est antisémite et complotiste, enfin, qui va plus loin, qui dépasse complètement le.
Justement, la dernière partie, c'est sur les luttes, donc on est en plein dedans. Et on a parlé beaucoup du contexte de transformation au niveau aussi des langages politiques, mais pas que. Ma question, c'était si on peut voir dans la chronologie qu'on a fait jusqu'à maintenant de la lipénisation des esprits, etc., aussi une transformation, forcément une transformation au niveau des revendications des dominés, côté lutte des migrants, lutte des sans-papiers, quartier populaire, etc., comme aussi les revendications ont évolué, pas forcément d'une manière positive, mais en tout cas, il y a forcément une revendication, comme il y a en même temps, et on l'oublie souvent, une évolution, une transformation de subjectivité, d'identité dénominée aussi.
C'est une question ?
Ouais.
Je trouvais que c'est une analyse, j'étais d'accord.
Non, mais bon, quelle transformation au niveau des revendications ? Je fais un petit exemple pour peut-être que c'est plus clair. Maintenant, au niveau militant, on parle vraiment beaucoup des libertés de circulation. Moi, je trouve très problématique cette définition, mais il y a vraiment, c'est plus ou moins accepté aussi au niveau international. Et voilà, on parle surtout que des libertés de circulation, mais on ne parle pas des libertés d'installation, on ne parle pas des libertés de rester aussi. Voilà, ça c'est un peu l'état des lieux, peut-être d'un côté, mais. Voilà, il y a une transformation, liberté de circulation, ça n'existe pas au niveau de la médication il y a 40 années.
Alors, moi, je ne vais pas parler sur l'aspect, parce que je vais le laisser à Alain, parce qu'il y répondra mieux que moi, même si j'ai bien entendu des choses à dire là-dessus. Je vais plus répondre du côté des enfants français issus de l'immigration. Les organisations militantes sont confrontées à une vraie difficulté objective, qui est une difficulté qui est liée au fait qu'elles sont, elles, construites autour de l'idée de l'entreprise. Sauf que toute une partie du monde du travail ne se socialise plus dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais ils travaillent par intermittence, ils travaillent par morceaux, etc. La vie d'un jeune issu de l'immigration aujourd'hui, et pas que ceux issus de l'immigration, mais en particulier eux, c'est sur de 18 ans à 35-40 ans, c'est effectivement du papillonnage, etc. Et donc ça veut dire que il va falloir faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, parce que c'est pas inscrit, sauf à plus tard à l'époque des Mao, ils le faisaient eux, hein, qui est effectivement de ne pas considérer que il y a que l'entreprise des Mao, qui elle allait dans les quartiers populaires, qui considérait que les quartiers populaires étaient un lieu de socialisation politique, un lieu de etc. D'ailleurs, c'est ce qui a, à mon avis, c'est pas leur théorie qui a plu, c'est aussi ça qui a permis pour certaines d'entre eux une accroche dans certains quartiers populaires. Tout comme à Roubaix, les Mao venaient dans le quartier et c'était ils avaient réussi à s'implanter par ce travail-là, quoi. Et donc y a un vrai problème qui est la prise en compte. En réalité, du monde des travailleurs tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et je pense qu'on fonctionne encore beaucoup sur des schémas. Or, aujourd'hui, le monde des travailleurs, c'est un monde qui n'est pas forcément dans l'entreprise, donc il faut apprendre à organiser sur d'autres bases, à organiser sur d'autres préoccupations, etc. Mmh. Deuxièmement, c'est un monde dans lequel, vous avez des musulmans maintenant, et donc on va retrouver les débats qu'on avait tout à l'heure. Si le religieux est un tabou, ça va être confronté, ou même un ennemi, on va être confronté à ça. Mmh. Et Donc on est vraiment, pour moi, c'est la difficulté. Les gens ne choisissent pas leur subjectivité. Elle est le résultat de leur fait objectif. Et donc, ces jeunes qui ont grandi en dehors de l'entreprise, ils ont une subjectivité qui est pas pire ou pas moins que celle des autres, mais qui est différente. Et là, on a du clivage militant. En réalité, aujourd'hui, on a deux mouvements militants parallèles. Mmh. On a vraiment deux mouvements. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de militants. Hein. Mmh. Mais aujourd'hui, ça se construit ailleurs. Mmh. Je n'ai jamais connu autant de collectifs militants que ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Ça se crée partout. Mmh. Et c'est des jeunes de quartier. Mmh. Et ça bricole, et c'est complètement anarchique, et ça va dans tous les sens, et ils savent pas par quel bout le prendre. Enfin, moi, si j'acceptais tous les débats qu'on me demande, parce que le fait que depuis 30 ans, j'ai participé aux luttes de l'immigration, voilà, je suis repéré, donc si j'acceptais tout, je passerais tous mes jours en débat. Mmh. Je veux dire, sur la région parisienne, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas 10 jeunes qui se sont mis ensemble, qui disent il faut qu'on apprenne, il faut qu'on, mais en parallèle et en critique. Ouais. Avec le monde. Et on est là sur vraiment un décalage. J'ai pas la solution, mais aujourd'hui on n'est pas en manque de militants, on est en éparpillement du monde militant.
Et c'était une des conclusions d'ailleurs du colloque de l'URMIS qui a eu lieu
il y a plein de luttes qui ont parlé,
il y a une réelle dette de l'université envers les militants de terrain et dans les quartiers populaires.
La marche de la dignité, elle a montré. Hein. Ouais. Alors après, tous les débats internes, etc., les contradictions, bien sûr, je ne vais pas dire que c'est un modèle, la marche de la dignité, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une manif avec ce dynamisme-là, avec cette jeunesse-là, etc. Et ça, et quand je savais longtemps, ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Ouais. Et c'est loin d'être un pôle uni, etc. Ouais. C'est vraiment un nouveau besoin politique qui émerge par en bas. Qui, n'ayant pas de canal d'expression, s'organise comme il peut. Et donc, c'est des collectifs. Voilà. Et ça, c'est en parallèle avec tout le monde. On peut même pas dire c'est tel type de théorie. On peut même pas dire c'est les trotskistes qui sont décalés. Non, c'est tout le monde militant classique qui est décalé par rapport à. C'est une éruption, en réalité. Hein,
C'est vraiment exact. Hein. C'est au niveau des initiatives, c'est frappant. Quoi. Mm-hmm. Effectivement, ça a une nature très centrifuge. Là maintenant ce que ça va donner, moi je sais pas, hein, parce que là effectivement ça débouche sur une question qu'on a un petit peu éludée, là c'était la question que tu as vaguement évoquée, la question de la démocratie, parce que en effet, pour que ça prenne une forme structurée, sans retomber dans les errements des groupuscules que moi j'ai bien connu, parce que moi j'étais justement dans un peu la mouvance de maoïste, hein. J'aimerais pas que ça reprenne cette forme-là, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de critiques à faire, hein, avec le recul, on se rend compte quand même des grosses limites de ces choses-là, même si effectivement il y a des gens qui étaient plus implantés que d'autres, hein, mais malgré tout c'était quand même des techniques de manipulation. Alors maintenant sur la démocratie, moi j'ai une petite chose à dire quand même, parce que on est en train, il me semble, de tomber d'accord souvent sur le fait que la démocratie dite participative, démocratie à partir d'initiatives locales et à partir d'un petit peu d'évacuation de la question du pouvoir, etc., c'est quand même quelque chose qui semble un peu supérieur, mais on trimballe quand même cette démocratie élective qui est à l'origine de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et cette démocratie élective, c'est tout sauf le parangon de la démocratie. Mais on le trimballe et on n'aimerait pas en être privé. Hein, on n'aimerait pas qu'on décrète, et on est dans une situation un peu paradoxale. Moi, j'ai très bien vu ça, parce que j'étais dans le jury d'une thèse qui avait été faite sur le droit de vote pour les étrangers. Un très bon travail, d'ailleurs, hein, c'était vraiment bien. Et moi, après, j'étais quand même un petit peu dans l'embarras, parce que je connaissais bien le bonhomme, et je savais qu'il ne défendait pas pour autant le système électif. Alors, on est à défendre un système que par ailleurs, sur lequel on a vraiment de grosses objections à faire, pour dire il faut les tendre aux étrangers. Et on est souvent dans ce genre de situation un petit peu inconfortable, quoi. Et en effet, moi ce que j'analyse, et je pense que dire les groupuscules pouvaient très bien singer ça à leur façon, c'est que c'est quand même une espèce d'accomplissement du clientélisme. C'est à partir du moment où le clientélisme, c'est-à-dire qu'on est là, on va lécher derrière des électeurs au moment où on a besoin d'eux, en leur faisant des promesses dont tout le monde sait, on feint de croire que c'est pas vrai, mais tout le monde sait qu'elles ne seront pas tenues, aussi bien ceux qui votent que ceux qui se font voter. Et on est dans cette espèce de fiction permanente, quoi. Et on n'a rien inventé d'autre sur le plan central. sur le plan local, il y a des espaces démocratiques, très souvent, elles tournent court parce qu'il y a les contraintes, précisément, notamment au niveau budgétaire, au niveau de la concurrence des hommes politiques, et c'est pas brillant, ça dure jamais très longtemps. Mmh. Et au niveau central, on n'a pas de solution. Mmh. Une solution qui serait un peu la solution athénienne, mais pas celle-là non plus, parce que les Athéniens, c'était la démocratie seulement pour une classe extrêmement limitée. Hein. Il y avait ça et puis les esclaves. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y avait un mode de gestion pour ceux que ça concernait qui était sans doute infiniment plus démocratique. Mmh. Mais bon, voilà, on n'a pas d'imagination là-dessus. Hein. Moi, j'en ai pas en tout cas. Mmh.
Mais moi, je ne vis pas comme une contradiction ce que tu as dit au début sur...
J'ai parlé d'un confort.
Voilà, mmh. mais c'est un inconfort. Mmh. Oui, c'est-à-dire que pour moi, il faut qu'on distingue dans la dynamique démocratique historique, parce que je vais rester optimiste, les moments dans lesquels on a de l'extension, une dynamique extensive, et des moments où on a une dynamique intensive. Les dynamiques intensives, c'est les moments de rupture de modèle, où on arrive à inventer un nouveau modèle. Mmh. Mais pour inventer un nouveau modèle, encore faut-il... que ceux qui sont exclus de l'ancien soient pas laissés en marge. C'est un débat que j'ai avec le mouvement anarchiste et libertaire. Mmh. Par exemple, dans les sans-papiers, mais Saïd, quand même, tu demandes des papiers, les papiers, c'est de la merde. Pour pouvoir dire c'est de la merde, il faut en avoir. Mmh. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas dire c'est de la merde. Mmh. La même chose, ils me disent, tu te bats pour le droit de vote aux résidents étrangers, mais élection piège à la con. Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas le droit d'être anarchiste.
Mmh. C'est ça.
Voilà. Mmh. J'ai pas le droit. Voilà, moi, j'ai une carte de résidence, donc j'ai pas le droit de vote. Mmh. Et donc, si j'ai pas le droit de vote, je peux pas ne pas voter. Mmh. Je peux pas m'abstenir au mouvement d'abstention. Mmh.
Je suis même pas un acteur politique. Ouais.
Et donc, pour moi, c'est un inconfort, mais faut.
Oui. Non, c'est quand même. Mais c'est pas une condamnation quand je dis que c'est une contradiction. Mmh. C'est pas ça ne condamne pas du tout la chose. Il y a quelque chose bon qui. Oui, enfin bon.
Ça reste dynamique.
Tu l'as bien résumé, quoi. C'est pour avoir le droit de parler. Moi, par exemple, j'ai pas tendance tellement beaucoup à voter, mais je n'aimerais pas qu'on me retire ce droit. Mmh. Voilà, bon, c'est évident.
Avoir le droit d'exister.
Mmh. Oui, exactement. Au niveau symbolique, c'est vachement...
C'est la source du terme littéral de citoyenneté, hein, c'est droit de citer, initialement. Mmh. Hein. Quand on voit que maintenant, ce terme-là, il est utilisé à toutes les sauces, j'ai vu une affiche l'autre fois, « Soyez citoyen, devenez propriétaire », bon, ça va, c'est bon, quoi.
nicht versäumen, sie darauf hinzuweisen, dass der künstliche Nebel, den sie bereits seit 10 Minuten einatmen, eine äußerst giftige Substanz darstellt, die bereits nach wenigen Augenblicken zur Bewusstlosigkeit und zum Tode führen kann. Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben. Was haben Gegner noch gesagt? Nur Satrif, nenn ihn Satrif. Mein Rolf verlost muss noch, wird er gesund zu verbrust. Mit ihm ordentlich in dem Hans der Den Schwarz als Busser gefliegt, was die Ohren am Tag mehr.
We'll be right back.
Il ouais, y avait l'autre volet là, si, sur les, l'histoire de liberté de circulation. Simone, tu dis oui, on ne parle pas d'installation, ni de rester, ni. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, moi personnellement, je suis un farouche partisan de la liberté de circulation, qui d'ailleurs est inscrite dans la Convention internationale, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, avec cette absurdité que l'article 13 prévoit la liberté de quitter tout pays, y compris le sien, mais ne crée pas de devoir pour les pays d'accueillir toute personne qui a quitté un pays. Alors cherchez l'erreur. Ça, ça a été une négociation très compliquée où les Américains ont pris leur part parce qu'ils se méfiaient déjà, ils avaient bien compris qu'il pouvait y avoir un risque après de ce qu'on appelle une invasion. Et voilà. Bon, mais la liberté d'installation, moi personnellement, quand je dis liberté de circulation, c'est incorporé dedans. C'est incorporé. Ça ne voudrait absolument rien dire dans mon esprit. Dire la liberté de circulation, c'est pas de la justice plus ou moins, parce que il y a les visas de court séjour, les visas de tourisme, etc. Moi, pour moi, c'est bien installation. Alors maintenant, là, tu as dit quelque chose que j'ai mal compris. Tu as l'air de dire que c'est devenu une évidence. Oh là là, pas du tout. Non, tu n'as pas dit ça.
Tu as dit que c'est déjà plus généralisé, c'est quasiment acquis.
Oui, c'est quasiment acquis, mais pas du tout.
Non, je ne disais pas ça. Je disais que maintenant, au niveau des revendications, ça change les mots.
Non, mais c'est quand. Écoute, moi, j'ai vraiment bien accompagné ça. Moi, j'ai fait. C'était pour l'agence immédiate, justement, j'ai fait un texte sur la liberté de circulation qui date des Saint-Bernard, qui date donc de 1995-16. Donc j'ai pas changé d'avis depuis et j'ai plutôt essayé d'affûter un peu mes arguments parce que c'est pas si simple. Mais ce que je pense, c'est à ce moment-là, on nous regardait comme des hurluberlus. On disait mais ils sont complètement fous, c'est des utopistes ou alors des dangereux. Je me suis même fait traiter d'ennemi de la République, etc. Bon, enfin des trucs.
Cette critique là.
Et bon, j'appartiens donc à un réseau qui s'appelle le réseau Migre Europe. On a quand même mis 10 ans avant d'arriver à mettre ça dans les statuts. Il y a beaucoup de gens qui disaient non, d'abord les associations que nous représentons vont pas vouloir, et puis quand même, ça va pas de soi, etc. Non, c'est vraiment un combat de tous les instants. Moi, je me souviens très bien de m'être fait vraiment beaucoup rabrouer sur cette question-là, en public, l'air de dire, mais vous êtes un charlot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de liberté de circulation? Alors, c'est vrai que bon, l'argumentation, elle a besoin d'être vraiment très, très travaillée, parce que c'est pas évident. Il y a cette question sur laquelle tu m'avais interpellé, je me souviens, à ce colloque dont on a parlé, là, qui est une question tout à fait juste, qui est, mais alors, quid du droit du travail? Quid de effectivement, les syndicats, en général, sont plutôt hostiles à ça. Et on comprend bien, puisque pour eux, ça signifie que l'immigré va venir travailler à de meilleures conditions, qui va être embauché en priorité, et que ça va donc pratiquer ce qu'on appelle le dumping social. C'est un argument qu'on ne peut pas ne pas prendre au sérieux.
Il faut répondre à cet argument.
Il faut répondre à ça. Il faut également, donc, à chaque fois, moi, qu'on touche au droit du travail, ce qui est en train de se faire avec la complicité de gens dont on n'attendait pas ça comme cadeau, hein, je pense à l'ancien ministre, là, Badinter, d'une part, et d'autre part à Lyon-Camp, qui a quand même une grande tradition de défense du droit du travail, que ces gens-là se soient mis au service d'une refonte du code du travail dans un sens négatif, ça c'est très mauvais pour la liberté de circulation.
Absolument.
C'est très très mauvais. Parce que à partir du moment où effectivement on va, comme on appelle ça conventionnaliser le droit au niveau des entreprises en leur laissant librement la possibilité de négocier quoi, n'importe quoi avec leur syndicat, dans un pays où les syndicats n'existent pas sur le plan numérique, même s'ils existent sur le plan politique, hein. C'est pas très bon signe pour cette histoire-là, et ça, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. L'autre volet aussi, sur lequel j'ai toujours beaucoup insisté, c'est que c'est indissociable de la lutte contre le racisme. C'est impossible qu'on puisse avancer le mot d'ordre de liberté de circulation si les gens sont effectivement non pas seulement traités comme des esclaves au sens vulgaire du terme, c'est pas de l'esclavage, enfin sont maltraités sur le plan du travail, mais sont également maltraités dans les esprits, parce qu'à ce moment-là, on a effectivement, je citais Athènes tout à l'heure, là on est dans un régime à deux vitesses qui est horriblement dangereux, et là la liberté de circulation à ce prix-là, moi j'en veux pas. Mais autrement dit, quand on dit beaucoup de gens disent, ouais, mais tout circule, les marchandises, etc., et pourquoi pas les hommes? J'aime pas cet argument-là. J'ai pas du tout envie que les hommes circulent comme des marchandises. J'ai envie qu'ils circulent comme des personnes.
Exactement ça, la question.
Avec leurs droits. Avec leurs droits et le respect. Le respect, c'est l'histoire du racisme. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Enfin, ce mot d'ordre, à mon avis, après tout, il a quand même fait son chemin. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a quand même, une autre association, oui. Le GISTI, a mis ça dans ses statuts, pas immédiatement. Le GISTI est né en 72, il a mis ça dans ses statuts dans les années 90.
Oui, et puis on se fait plus incendier de la même manière quand on prononce ce terme-là. Voilà. L'UNESCO
fait une publication sur la liberté de circulation. Des chercheuses très prestigieuses comme Catherine Vital de Venden étaient hostiles et maintenant sont devenues favorables. Enfin bon, il y a une évolution. Et moi, on ne m'insulte pas comme on m'a insulté du temps où Patrick Veil me traitait d'ennemi de la République. Ça finit, ça.
Non, maintenant tu seras traité d'ultralibéral.
Oui, bah, c'est ça. Non, j'avais été traité de complice des ménégriers.
Ben voilà, donc c'est
encore mieux. Voilà. Et est-ce que c'est le mot de la fin qu'on libère
Bon, je préférerais qu'il y en ait un autre que celui-là, mais j'en ai pas.
Voilà, donc c'était l'entretien avec Saïd Bouamama et Alain Maurice. Et donc c'est l'émission Offensive Sonore sur Radio Libertaire qui se termine. Et donc on termine comme régulièrement avec un petit point agenda. Donc demain, samedi 20 février, à partir de midi, un rendez-vous est donné à Ménilmontant contre l'état d'urgence avec banquet et prise de parole. À 16h, il y a un autre rendez-vous, c'est à Belleville, pour une manifestation de soutien aux inculpés du 23 janvier à Calais. Ensuite, le mardi 23 février, vous pourrez assister à une discussion sur les luttes en Chine au Rémouleur. Donc là, je vais lire les informations trouvées sur le programme du Rémouleur. Donc, discussion avec un camarade qui habite sur les luttes en Chine depuis 2011 et dans le contexte actuel de la crise financière qui a débuté en 2015. Il sera question de lutte contre les enclosures de terres rurales et les désastres environnementaux et des luttes contre l'exploitation dans les secteurs de la logistique et de la production industrielle. Voilà, donc le Rémouleur, c'est situé au 106 rue Victor Hugo à Bagnolet et vous pouvez trouver toutes leurs informations sur le programme et sur parislutte.info. Ensuite, le jeudi 25 février à 20h à BAM, donc la bibliothèque associative de Malakoff, on propose un atelier lecture autour du livre de Lucia Katz, publié aux éditions Libertalia. Donc c'est l'avènement du sans-abri. Donc la BAM, je redonne l'adresse également, c'est situé au 14 impasse Carnot à Malakoff. Le samedi 27 février, c'est la grande manifestation à Notre-Dame-des-Landes. Et donc il y a des départs en bus proposés depuis Paris. Ensuite, le 28 février, à nouveau au Rémouleur, il y a une discussion sur Ayotzinapa et la violence d'État au Mexique. Donc pareil, je vais vous lire ce qui est indiqué dans le programme. Donc le 26 février 2014... Une effroyable répression s'est abattue sur les étudiants mexicains de l'école normale rurale d'Ayotzinapa. Lors d'une collecte de fonds à Ignala, 3 morts, des dizaines de blessés et 43 étudiants toujours portés disparus. D'après la version officielle, ils ont été emmenés par la police municipale et livrés au groupe criminel des Guerriers Unis qui les auraient brûlés dans une décharge publique. Pour le gouvernement mexicain, les événements d'Ignala ne sont qu'un fait isolé. Cependant, ce cas et la manière dont il a été géré ont durement mis en lumière la violence qui a cours au Mexique, la collusion entre les hommes politiques et les narcotrafiquants, la vaste crise d'impunité et la terreur d'État à laquelle doit faire face la population depuis des années. Si nous aborderons tous ces sujets en prenant Ayotzinapa, comme point de départ, cette soirée sera aussi l'occasion de parler des mouvements sociaux et communautaires qui essaye de construire des alternatives face à l'État. Voilà, donc c'est le programme là, un peu des deux semaines qui arrivent, en sachant que vous pouvez trouver un agenda plus complet sur le site de paris-lutte.info, ainsi que celui de Démosphère. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Radio Libertaire ou dans vos autres activités. No thrill is gone.